France Inter, franceinter.com.
14h04 sur France Inter, vous retrouvez Denis Chessou, CCO de Mon Amour, en direct du Salon du Livre aujourd'hui.
Mais oui, on va essayer de ne pas abattre trop de forêts pour des mauvais livres, je vous rassure, cher Julie Gacon. Et donc nous sommes avec 4 invités dans des domaines complètement différents, mais qui vont aussi dans le même sens. C'est-à-dire que tous sont aussi des protecteurs de la nature, et donc on va en parler d'ici quelques instants. Merci à vous, Julie.
Merci.
CO2 Mon Amour, avec Paprec, recyclage des déchets des industries et des collectivités.
Et bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement en direct du Salon du Livre avec aujourd'hui Ludivine Caron et Bernard Legac qui sont à la technique. Et c'est assisté de Jean-Christophe Pinaza et Jean-Baptiste Audibert, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Alors une petite humeur qui n'est pas exactement sous forme livresque mais qui correspond à l'actualité. Maman, les petits bateaux vont-ils sur l'eau? Ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros badaud, au Sable d'Olonne, ça se pourrait bien. Je m'appelle Artémise. Artémise du nom de la déesse de la chasse et de la lune. À la bonne heure, je suis arrivé en plein jour dans un port de pêche chercher l'erreur. Alors je porte le nom d'une beauté grecque et j'ai un pavillon néerlandais. J'ai échoué mes 3500 tonnes au pied du Ramblais sur la plage de sable fin par une marée de 106 et des vents qui soufflaient fort. Je me suis heureusement arrêté juste avant l'église Notre-Dame de Bonport. La mer m'a posé là, c'était un lundi. Lendemain du premier tour des élections et à l'image de pas mal de candidats, je me suis ensablé une bonne partie du corps. Voilà, alors évidemment, ils avaient un peu la gueule de bois, moi j'avais le tournis. On a essayé de me sortir, de sortir mes 300 pieds de long qui bouchent l'horizon de la cité balnéaire. C'est vrai que les vacances en promotion, les projets de monsieur le maire, c'est pas terrible quand on a un bateau comme ça sous le nez. Le climat de la Vendée, c'est pas que ça me plaît pas, c'est un peu bétonné, mais autant que la Méditerranée, ah là non, ça se peut pas. Alors certains ont pu penser aussi que je me suis échoué pour lancer une nouvelle vocation dans cette cité balnéaire. Oui, la grande plage deviendrait chantier de découpage pour cargo en fin de vie. La France montrerait enfin avec fierté qu'elle peut concurrencer l'Inde, la baie d'Alang et ses petits esclaves au salaire de misère. Car l'hypothèse du dépeçage sur place est une tendance quand même qu'il ne faut pas trop négliger. Alors je ne veux pas finir non plus dans l'armée, c'est-à-dire en stand de tir, avec une silhouette trouée qui détruirait au fur et à mesure mes jolies plaques de fer. Pendant que les marées monteraient, eh bien, ça ferait quand même des bouchons à moules, des planques pour les homards, les huîtres viendraient y cacher leurs amours, le goéland, à jour de sa cotisation à la LPO, s'y reposerait le temps qu'il faut. Ouais. Non, pour une fois, le bateau Yves n'avait pas de pétrole ou de saloperie chimique. Dans mon ventre, il y avait de la banane, il y avait des fruits exotiques. Mais attention, faut pas traîner parce que ça mûrit vite, cette affaire. Un stand de tir pour l'armée, bon d'accord, c'est pas une bonne idée. Transformez-moi en club Mickey, oui, pour divertir les enfants dans la journée. En pompe à fric pour les vieux, en casino. Et le soir, c'est du liquide qui coulerait à flot. Non, en fait, moi, mon rêve secret, je vais vous le dire. Mettez-moi une voile. Et là, je repartirai comme un petit navire. Et c'est promis parce que moi, j'en peux plus des bananes et des fruits verts. Mon rêve à moi, c'est le tour du monde en solitaire. C'est faire le Vendée Globe tous les 4 ans, partir des Sables d'Olonne. Mettez-moi une voile, mettez-moi un spi, et à la première brise, vous n'entendrez plus jamais parler de l'Artémise. Ils sont gentils, ils applaudissent parce que c'est vrai que vous êtes quand même. Oh oui, vous êtes. Il y a du monde. Il y a quand même du monde là, effectivement, dans ce salon de livres, parce qu'on a quand même des livres environnementaux qui nous intéressent bien et on va dire de plus en plus avec 4 invités. Alors je le disais, sensibilité, on va dire commune, mais avec des approches différentes, ça fait tout le sel de cette émission. Cher Alain Bougrain-Dubourg, bonjour à vous.
Bonjour, je suis heureux de savoir que les goélands adhèrent à la LPO.
Mais oui, absolument, les guillemots aussi, les guillemots, et quand même rappelons le macareux, le petit macareux qui est l'emblème.
Qui est le symbole, l'emblème de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux.
Alors Alain, curieux de nature, donc ça c'est un ouvrage qui résume, on va dire, 30 ans de passion pour la planète aux éditions Flammarion. Quand je dis résume, c'est pas exactement le mot parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez pu faire. Comment est née la vocation, je dirais, d'Alain Bougrain-Dubourg par rapport à cette nature?
Ah, c'est enfant, tout petit, je crois que c'est le goût de l'exotisme, la recherche du fantastique, de l'inaccessible. Et quand je voyais, j'ai eu la chance d'être élevé dans l'île de Ré, notamment, les oiseaux de mer qui partaient très loin, j'avais envie de les accompagner. Non, c'est le rêve. Et j'ai eu la chance de faire de ma passion une profession, ce qui est tout à fait remarquable. Oui,
bien sûr. Souvent, quand on nous demande les uns les autres, on me dit « je suis payé à être curieux ».
Voilà. Et moi, particulièrement curieux de
nature.
Et
ben voilà.
Voilà. Et non, c'est une génération où on avait le lance-pierre à la main. Aujourd'hui, je vois avec bonheur qu'il est remplacé par la jumelle. Et on avait le goût de la possession, c'est-à-dire qu'on tuait quand même dans ma génération. Aujourd'hui, on a compris que c'était plus riche, plus enseignant, plus généreux d'observer, de regarder, de découvrir, de comprendre. Quand vous voyez qu'un oiseau-mouche bat 80 fois des ailes à la seconde, vous ne pouvez pas rester indifférent. Quand vous voyez qu'un martinet dort dans le ciel et ne se pose à terre que pour pondre un œuf et élever les petits, bon, vous ne pouvez pas rester indifférent. Et la nature est faite de tout cela. Et c'est pour ça que, ben voilà, on devient curieux de nature, effectivement.
Alors, un autre homme à vos côtés qui s'appelle Pascal Canfin, qui est journaliste au mensuel Alternative Économie, qui a écrit un bouquin. Alors là c'est autre chose. C'est vrai qu'on comprend un coup, et en même temps, c'est tout à fait nécessaire. Le livre s'appelle « C'est pollué près de chez vous ». Le sous-titre, c'est « Les scandales écologiques en France hein, », donc signé de Pascal Canfin et de Wilfried Séjot, aux éditions les Petits Matins. Vous, c'est plus une approche environnementaliste que naturaliste au départ ou...
Qui m'a conduit à faire le livre
ouais. Enfin, non, une manière générale dans la vie.
De manière générale, je suis pas né écolo. Hein, ouais. Je pense qu'on devient écolo, mais ma vocation est beaucoup plus récente que celle d'Alain Bourguin-Dubourg.
Vous êtes
moi,
plus jeune
plutôt.
Aussi.
Non, mais je veux dire, j'étais plutôt. C'était une façon de le rappeler. Donc moi, j'étais plutôt pizza surgelée et voyage en avion jusqu'à il y a 6-7 ans.
Bien sûr.
Et puis je me suis dit, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à me documenter, et puis j'ai pris conscience que c'était pas bon pour moi d'une part, mais surtout c'était pas bon pour la planète. Que c'était pas partageable avec l'ensemble de l'humanité et qu'on allait dans le mur. Et donc j'ai essayé de changer mon mode de vie quotidien. Je suis dans une AMAP, j'essaie de faire des tas de choses alternatives, un petit peu plus écologiques. Et puis j'essaie de convaincre, notamment en faisant des livres et puis en tant que journaliste à Alternatives économiques, des enjeux et puis surtout des modes de vie possibles, des alternatives.
Et puis Jean-Christophe Vier, alors lui, il est vétérinaire au départ donc de formation. Aujourd'hui, donc, il est un des membres de ce qu'on appelle l'UICN, autrement dit, c'est l'Union pour Union mondiale pour la nature.
Union internationale pour la conservation de la nature.
Voilà, effectivement, moi je le résume, mais vous avez absolument raison de donner le titre tout à fait complet et précis. Alors vous, c'était quoi? Vous avez fait des affûts quand vous étiez gamin?
Alors moi, c'est tout petit. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Hein. Je pense que j'ai une passion. Je vivais à la campagne, en Dordogne, qui est une région assez fabuleuse. Donc oui, je faisais des affûts.
Un peu chaud pour les élections,
j'étais par la fenêtre, j'attrapais. Alors moi, j'avais un lance-pierre. Je ne m'en suis jamais servi. Je ne sais pas, j'ai toujours eu ce respect depuis tout petit pour la nature. Et puis, donc, j'étais vétérinaire. Moi, j'étais très influencé, je raconte ça dans le bouquin, par la série d'Actari. Donc, pour moi, travailler avec les animaux sauvages et la nature, il n'y avait pas d'autre voie que soigner les animaux. Donc, c'était très caricatural au départ. Mm-hmm. Et puis, je dirais que progressivement, je me suis familiarisé avec, en restant toujours très naturaliste, avec le défi qui était la conservation de la nature. Et puis aujourd'hui, donc je suis plus du tout vétérinaire. Hein. Je coordonne des grands programmes d'action internationale. Je suis dans une position assez privilégiée.
Vous êtes observateur de l'état du vivant de la planète. Hein.
Oui, et puis j'aimerais ne pas rester qu'observateur. Donc j'essaye de stimuler des actions, de faciliter le travail de tous ces milliers de gens que j'essaye un peu de célébrer dans ce bouquin. Il y a des milliers de gens qui font un travail formidable avec trois fois rien partout aux quatre coins de la planète. Et s'ils le font, c'est pas pour rien, c'est que c'est...
Parce qu'il y a quand même, on va le dire tout de suite, c'est vrai, il y a une liste qu'on appelle une liste rouge aujourd'hui, donc des espèces menacées, et donc vous travaillez donc à cela, ça a commencé il y a une quarantaine d'années. L'ouvrage, on va le dire, donc, s'appelle « Le jour où l'abeille disparaîtra » aux éditions Artaud. Alors là, vous avez pris ce titre en termes de symbole, hein. C'est vrai que cette phrase que l'on attribue à Einstein, paraît-il, « Le jour où l'abeille disparaîtra, l'homme n'en aura plus que pour 4 ans à vivre », on ne sait pas si c'est complètement lui qui l'a dit, non, je sais pas.
Il y a de fortes chances que ça soit pas lui, mais bon. Peu importe. Elle explique bien quelle est la place de la nature. Conserver la nature, ce n'est pas un luxe pour des pays riches, c'est une nécessité pour, je dirais, toute l'humanité.
Alors, si je transforme aussi mon grand bateau là, qui s'est échoué au sable d'Olonne en bibliothèque pour enfants géante, avec énormément de place, plus que dans la tulle du Mont Petit Loup, nous avons Frédéric Lisac qui est avec nous, qui est éditeur, qui est aussi naturaliste. Bonjour Frédéric, qui est toulousain, mais ça c'est pour la petite histoire. Et puis, vous venez de sortir en tant qu'éditeur un ouvrage dans vos éditions Plume de Carotte, d'abord très joli nom, Plume de Carotte, qui s'appelle L'Encyclo à Malice. C'est signé Hélène et Robert Pince. Et alors vous aussi, c'est venu comment, donc cette envie?
Ben moi, j'étais tout petit, j'étais un urbain. J'étais un urbain, mais qui avait la chance d'avoir des grands-parents agriculteurs en Limousin. C'était une agriculture simple, polyculture, mais les dimanches et les week-ends chez eux, bah, c'était pour aller les aider à faire les foins, ou pour aller chercher les cèpes sous les châtaigniers, ou pour aller taquiner les libellules dans le pré d'à côté pendant qu'eux s'occupaient du cochon. Enfin, une espèce de simplicité du rapport à la nature, que je ne place pas sur un plan idyllique, mais qui était une réalité, d'une nature très utilitaire, mais pas utilitaire dans le sens on va pomper tout ce qu'on peut et on s'en fout, oui. Mais elle nous sert. Elle nous sert, ben mes grands-parents, elle leur servait à vivre pour leur polyculture. Elle nous servait à nous aussi, pour gamins, pour rêver, pour imaginer. Et je crois que c'est vraiment venu de là. Je crois que j'ai lu quelque part que c'était un peu comme vous. Moi, j'ai eu un Opinel très tôt. Et c'était un très beau cadeau pour moi, parce qu'à partir de ce moment-là, c'était faire des flèches, des arcs et des flèches avec des tiges de noisetiers, un sifflet avec un sureau, des choses comme ça.
Alors c'est ce
et
que
ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est resté.
Dans cet ouvrage, c'est très intéressant, parce qu'on va dire, pour le résumer, l'Encyclo-Amalie, c'est un peu le manuel du castor junior moderne, quoi.
Oui, c'est, je dirais ça aussi en disant, il n'y a pas que les clés USB et les lecteurs MP3 dans la vie.
Non, c'est
je
vrai.
Pense que pour des gamins, ça peut être très bien de se servir de ce genre d'outils aujourd'hui. Ouais. Par contre, ça serait bien que, en même temps qu'ils sachent chatter peut-être sur le net, ils sachent aussi faire un sifflet avec une tige de pissenlit, par exemple. Il me semble que c'est là que pourrait être l'équilibre aujourd'hui d'un gamin.
Voilà, et donc c'est tout à fait intéressant, parce que derrière tout cela, on sent bien que nos invités voient très bien que nous sommes dans ce changement de civilisation dont on parle très, très, très souvent, et que l'humanité, sans le monde végétal, sans le monde animal, il va y avoir quelques léger problème, mais on y croit. Allez, on part en musique avec Étienne Dao, Obsession, c'est parti.
Comme un chant qui m'obsède, lancinant et obscène, tous les signaux d'alerte disent attention, ton âme me possède, mais en moi je réfrène, mille pulsions secrètes, mille démons. Ta résistance m'attise, j'embrise le mécanisme. Tu 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 tu. Et tu perds tout contrôle de la situation. Si tu fais tous tes choix uniquement en fonction de tes peurs, jamais de tes envies, la morsure du souvenir reviendra t'envahir. Et je deviendrai à mon tour ton obsession. Je deviendrai à mon tour.
Voilà, Étienne Dao, la puissance du désir viendra te faire souffrir. Bon, joie, bonheur, youpi, nous sommes avec Alain Bougrain-Dubourg et trois autres invités avec Curieux de Nature avec vous, cher Alain. Peu importe, on va dire, le nombre d'espèces animales, on va dire aujourd'hui dans le monde, parce qu'on peut en recenser quoi, 2,5 millions à jusqu'à 10 millions, donc c'est assez... j'espère que c'est infini, hein, c'est pas ça. Mais est-ce qu'il y a encore une relation équitable, je dirais, entre les hommes et les animaux? Je veux dire par là que comme vous avez parcouru vraiment les 5 continents, on le voit dans cet ouvrage. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore cette relation-là ou bien est-ce qu'il y a, ou c'est encore ce système où on doit asservir l'animal pour l'homme?
On constate que c'est très lié à la religion, en fait, nos relations à l'animal. Et le plus souvent, en tout cas dans les religions judéo-chrétiennes, on s'est entretenu à creuser le fossé qui nous séparait de l'animal, comme si l'homme avait besoin de rester sur un piédestal, faute de quoi il deviendrait fragile. Et c'est ainsi qu'on a considéré, il n'y a encore pas si longtemps, que l'animal, la grande différence, c'est que l'homme avait inventé l'outil, pas l'animal. Et puis, on découvre évidemment que le chimpanzé est capable, non seulement, moi je les ai vus, cueillir des branches, les choisir, mais les aménager pour les plonger dans des termitières et sortir et ces termites et s'en nourrir. Ou encore que la loutre de mer utilise deux galets pour casser les coquillages, ou que chez nous, le percnoptère va prendre un caillou pour casser un œuf, etc. Donc l'animal a lui aussi inventé l'outil. On dit que c'est le propre de l'homme que de rire. Non, c'est pas vrai. On sait que l'animalerie et le vétérinaire qui est à côté de moi, t'as dû plus souvent voir des animaux tristes qu'en train de se marrer, mais oui. Ils existent.
D'ailleurs, on dit rire comme une baleine, d'ailleurs. C'est pas,
oui, c'est pas par hasard. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Bien des choses. On a dit que l'animal, par exemple, ne faisait l'amour que pour pérenniser l'espèce. Et on voit bien que chez les dauphins ou chez les bonobos, ben, l'acte d'amour est essentiel et il est
C'est même un mode de régulation sociale.
Hein. Ah, complètement. Il y a des exemples étonnants. Vous avez par exemple deux mâles qui sont en conflit et le stress, la tension commence à monter. Il y a une femelle qui voit cette situation et dans l'intérêt de la collectivité, elle va aller vers les mâles. J'ai envie de dire, elle roule un peu du cul là, bon, pour attirer l'attention des mâles qui d'un seul coup se détournent, regardent la femelle, la trouvent jolie, en oublient leur conflit et une fois que tout s'est calmé, la femelle, évidemment, elle s'en va. Donc, il y a des relations tout à fait étonnantes. L'animal est capable de mentir, et puis il est capable de compassion, c'est évident. Alors, tout ça nous dérange parce qu'il nous est proche. Et moi, je fais partie de ceux qui, aujourd'hui, considèrent qu'on doit réfléchir sérieusement aux droits de l'animal. Pas forcément du zooplancton, bien évidemment, mais au moins des primates qui nous entourent, qui nous sont plus proche pour certains d'entre eux que le chimpanzé est proche du babouin. Alors on répond à ça, mais pour donner des droits à l'animal, il faudrait qu'il soit capable de le comprendre, qu'il a ce droit. Mais quand un enfant vient de naître, il a des droits. Quand quelqu'un devient handicapé, il a des droits, et pour autant il ne comprend pas malheureusement. Eh bien, je crois qu'on peut avoir la même réflexion et que ça serait élever la dignité de l'homme que de s'intéresser aux vivants qui nous entourent avec du respect. Et puis alors, on assiste à autre chose aujourd'hui.
Alain, lorsque je parlais aussi donc, de ces relations entre les hommes et les animaux, il y a un exemple qui est tout à fait frappant en Asie. Ce sont, on va dire, des écologistes précurseurs qui s'appellent les Bichnoïs.
Les Bichnoïs. Alors, j'ai eu le bonheur de les rencontrer. L'histoire commence au 15e siècle, après une période très douloureuse où il va y avoir des chaleurs terribles, une désertification. Et il y a un jeune homme qui va s'isoler, qui va réfléchir après ses 6 ans et qui va se dire pourquoi. Et finalement, il conclura que c'est parce que l'homme s'est mal comporté à l'égard de la nature. Il n'a pas tort. On a déboisé et ça a favorisé l'accélération du désert. Et il va proposer 29 préceptes. Et Bichnoï veut dire 29 dans ce langage particulier. Et ces préceptes, c'est évidemment être végétarien, planter un arbre tous les ans, être respectueux de la nature. Et pendant que me racontait le chef du village l'histoire de sa communauté, je voyais des gazelles autour de nous, je voyais des oiseaux s'approcher, les distances de fuite s'étaient effacées. Je vous assure que là, vous vous dites, la cohabitation est possible. Et quand je suis reparti, j'oublierai jamais, il m'a dit, l'un de nos 29 préceptes est d'aimer toutes les bêtes, pas seulement les belles, toutes les bêtes, m'a-t-il dit. Et là, quand on est dans cette compassion à l'égard des autres êtres vivants, je crois qu'on est dans la vérité.
Parce que, en fait, Jean-Christophe Vier, c'est vrai qu'on a toujours J'irais un peu le syndrome des espèces emblématiques. Alors, on peut nous dire qu'effectivement, un décideur, un chef d'entreprise, un homme politique va connaître un ours, va connaître un dauphin, va connaître un vautour, et donc c'est un peu la vitrine. Mais il y a toute cette, ce qu'on appelle biodiversité, et quand on parle de biodiversité, c'est simplement la vie, hein, pour faire simple, ordinaire, qui est tout à fait indispensable. Et ça, vous voyez donc les choses évoluer, et pas forcément toujours en bien, Jean-Christophe Vier, ou...
Mais alors moi, j'aime bien abandonner, surtout quand on parle à un grand public, le terme de biodiversité qui est très technique, un petit peu parler justement de ça, de la diversité de la vie. Pour moi, ça parle beaucoup plus, ça touche peut-être un peu plus les gens. Donc on a tendance à avoir un discours assez technocratique. Oui, alors nous, quand on publie la liste rouge des espèces menacées, on a fait ça il y a 16 000 espèces menacées. L'année dernière, on a listé l'ours polaire et l'hippopotame. Ça y est, toutes les histoires dans la presse étaient sur l'ours polaire et l'hippopotame. Comme en France, le débat est cristallisé autour du loup et de l'ours. Et je trouve ça assez pathétique. Oui, il faut s'occuper de ces espèces.
Mais... Cannelle, en ce moment, dont on parle, effectivement, cache la forêt des autres espèces.
Voilà, ça cache la forêt. Alors, il y a aussi beaucoup de financement, beaucoup de querelles autour de ces espèces emblématiques. Et puis, vous avez tout le reste de la chaîne alimentaire qui est absolument fondamentale pour maintenir ce qu'on appelle les services que rendent les écosystèmes. On parle beaucoup de la pollinisation en ce moment des abeilles, c'est des papillons, c'est beaucoup d'invertébrés.
Mais qui est un vrai problème en Amérique du Nord. Hein,
c'est un problème qui commence à frapper un petit peu le monde entier. Et j'ai eu des nouvelles du Limousin récemment, où apparemment il y a quand même des choses assez inquiétantes qui se passent au niveau des abeilles. Donc toutes ces petites bêtes qui travaillent au service de l'homme, c'est comme ça qu'il faut le voir, au service de l'homme, et ce qu'elles font, ce qui est magique, c'est que c'est gratuit. Donc tout ça est fourni gratuitement à l'homme, on en profite tous les jours et on ne le respecte pas. C'est là un petit peu le paradoxe. Alors oui, c'est comme si vous rentrez dans un supermarché, la nature c'est ça, vous avez un grand supermarché avec des rayons remplis et l'homme va là-dedans et se sert. Et comme c'est gratuit, il ne fait pas attention à ce qu'il prend, s'il ne doit pas le payer.
Oui, et surtout on est en train de taper dans le capital alors que logiquement, en bon père de famille, il faudrait surtout gérer les intérêts, quoi.
Exactement, je pense qu'on devrait vivre sagement des intérêts.
Oui. Ça serait... Alain ?
C'est capital de s'intéresser aux espèces banales. Nous, à la LPO, avec tendresse, on les appelle les merderoles. C'est toutes ces petites espèces d'oiseaux qu'on oublie.
C'est mignon, ça, les merderoles, ça.
Et je voudrais quand même souligner que le Muséum national d'histoire naturelle, avec les ONG, les ornithologues, a fait un programme qui est le programme STOCK et qui s'est attardé sur ces oiseaux communs. Et on voit que les hirondelles, par exemple, sont en effondrement. Les alouettes, même chose. Alors, on a un espoir. C'est le Grenelle de l'environnement qui a notamment proposé la trame verte. La trame verte, ce sont des corridors verts qui vont rejoindre les zones les plus sensibles, comme les réserves, les parcs naturels régionaux, parcs nationaux, etc.
À condition qu'ils soient opposables aux aménagements aussi. Hein.
Alors ça, c'est pas gagné, mais on l'espère. Et ça profitera en tout cas à toutes ces espèces indispensables à le fameux équilibre naturel.
Alors Pascal Canfin, là aussi, j'irai un petit peu votre sentiment, parce que là, vous y allez, et je crois que vous avez raison. Donc avec ce livre, c'est pollué près de chez vous, les scandales écologiques en France. Donc ça va aussi bien, on va dire, du futur incinérateur, donc pas du côté de Fos. On parle des PCB, on parle d'une usine sur laquelle on va revenir. Et en même temps, vous débutez le bouquin en disant « Plus écolo que moi, tu meurs ». C'est-à-dire que qui n'est pas écolo, en fait, en politique aujourd'hui, hein, mais derrière tout ça, vous êtes allé quand même voir, enquêter dans les coulisses de l'administration. Et on ne peut pas dire que l'État donne quand même l'exemple plus probant, quoi.
Non, on a essayé effectivement de faire une sorte de tour de France des aberrations. Donc on est effectivement allé en Bretagne, dans les Antilles, vers Marseille, dans les Yvelines. Et on a vu qu'à chaque fois, il y avait des points communs à l'ensemble de ces scandales ou de ces aberrations. Le premier point commun, c'est l'absence de pouvoir public fort, volontariste, pour appliquer la loi. Mmh. On va y venir sur l'usine des Yvelines qui recycle, qui est située donc dans le sud des Yvelines.
Qui recycle
de l'aluminium, ce qui en soi est plutôt une bonne chose.
Bien sûr, parce que c'est assez écolo.
Recycler l'aluminium permet d'économiser 95% de matières premières, donc c'est quelque chose de positif, sauf que ce processus émet des dioxines et que ces dioxines sont cancérigènes, ce qui est un fait établi. Et cette usine a été ouverte en 1977. Comme c'est une usine classée dangereuse, il y a un arrêté préfectoral qui encadre cette activité. Et puis, dès le début, cette usine n'a pas respecté l'arrêté préfectoral. et puis pendant comme ça des années, et il a fallu attendre 94 pour qu'on ait un nouvel arrêté préfectoral qui va dire quoi ? Qui va finalement légaliser l'illégalité précédente, puisqu'il va étendre ce que faisait l'usine de manière illégale, ça va devenir légal.
Et ceci grâce aux associations, hein, parce que c'est là que ça commence aussi.
Alors, les associations ont joué un rôle de contre-pouvoir, voilà. Mais là, en l'occurrence, l'administration entérine une illégalité précédente.
Ah oui, d'accord.
Et puis, on pourrait dire, bon, fin de l'histoire. Mais pas du tout, parce que depuis 1994, l'usine continue à polluer, et elle n'a jamais été contrôlée, parce qu'on a extrêmement peu de ce qu'on appelle la police de l'environnement, c'est-à-dire de personnes qui, dans l'administration, dans les services publics, sont en charge de l'application de la réglementation environnementale. Oui. Ce qui fait que les usines à risque environnemental, hein, qui, on va dire les plus polluantes en France, sont contrôlées en moyenne une fois tous les 10 ans.
D'accord.
Ce qui laisse quand même largement le temps
ça
de faire ce qu'on veut en attendant.
Les normes,
d'où
on va dire.
L'importance vraiment essentielle des contre-pouvoirs associatifs, puisqu'il ne faut évidemment pas compter sur la logique de profit, la logique de rentabilité à court terme pour mettre en place des réglementations environnementales. On ne peut pas compter non plus, malheureusement, sur les pouvoirs publics qui ne sont pas là pour appliquer la réglementation qu'ils ont parfois pourtant édictée. Et donc, on est obligé de compter sur les contre-pouvoirs associatifs. C'est vraiment, il y a tout un débat en ce moment sur les lanceurs d'alerte. C'est vraiment extrêmement important de les protéger. Je voudrais finir sur cette histoire-là, parce que donc première date 77, 94, et puis en 2007, quand même, les associations saisissent les médias, font un petit bruit, et le préfet commence à changer un petit peu son fusil d'épaule, l'approche des élections, bon, et dit, voilà, interdiction de produire dans l'usine tant que vous ne respectez pas les normes européennes en matière de dioxine. C'est-à-dire, c'est fini, vous devez arrêter, on confisque le bien. Et puis finalement, ça continue. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Pendant un certain temps, il n'y a pas de politique publique, puis après, il y a des arrêtés préfectoraux qui ne sont pas respectés, et puis ça continue. Et aujourd'hui, pendant des années, l'État a dit, finalement, l'usine n'est pas polluante. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, si, l'usine est polluante, mais l'effet de la dioxine s'arrête dans les 300 mètres.
Bien sûr.
Alors, c'est une équation mathématique qui ressemble quand même au nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté.
Pas à 305, hein, vous le saviez.
Voilà, 300 mètres. Avant, c'était pas polluant. Maintenant, c'est polluant, mais seulement 300 mètres. Il se trouve quand même que dans ces 300 mètres, il y a un village, il y a des salariés. Et ben, malgré le fait de
dire parce que le village en question s'appelle Sonchamp. Hein, donc
voilà,
on n'est pas loin de
Saint-Arnoux, au sud
de Clairefontaine, en Yvelines.
Ce qui est plutôt un coin bucolique rural en Île-de-France.
Et où les enfants naissent avec un ballon de football au pied à Clairefontaine, me semble-t-il. Enfin,
c'est exactement. Ouais. Et bien, malgré là, la situation, c'est qu'aujourd'hui, voilà, l'État a dit c'est dangereux, c'est cancérigène jusqu'à 300 mètres. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Mais même dans cette limite de 300 mètres, on continue à ne rien faire. Et ce qui est intéressant d'un point de vue économique, parce que nous, on s'est intéressé aux politiques publiques dans le livre, mais on a aussi un regard économique, c'est de dire, mais finalement, il y a des concurrents de cette usine dans les Yvelines qui font la même chose, qui recyclent de l'aluminium. Il n'y a pas qu'une seule usine.
Ils sont dans l'Oise et ça marche, là.
Et eux, ils sont dans l'Oise et ils ont investi 10 millions d'euros pour abaisser au maximum le taux de dioxine et pour respecter, voire plus que respecter, les contraintes réglementaires. Et donc, le fait que l'État n'applique pas ne fasse pas appliquer ces règlements, c'est une subvention aux pollueurs, puisque c'est 10 millions d'euros d'investis d'un côté et de l'autre côté, rien du tout. Et donc, ça pénalise ceux qui jouent le jeu de leurs responsabilités. Et on est dans le cadre vraiment d'une logique totalement inverse au principe pollueur-payeur, qui voudrait justement qu'on taxe davantage l'usine qui est située dans les Yvelines et éventuellement qu'on encourage l'usine qui est située dans l'Oise. Et aujourd'hui, on fait exactement le contraire, malgré les beaux discours.
Alors, c'est vrai qu'on a encore un petit peu de chemin, mais ce travail est donc tout à fait exemplaire, parce que l'idée, c'est pas de vouloir tacler, je veux dire, les entreprises, et d'un côté, les salauds de pollueurs, les gentils écolos de l'autre, surtout pas, puis c'est pas du tout ça la réalité du monde, mais c'est de montrer qu'effectivement, avec le même produit, donc ce recyclage d'aluminium, parce que l'aluminium consomme énormément d'énergie, eh bien, on peut aussi bosser proprement, et c'est ce qu'ils font aussi dans cette autre entreprise.
Il s'agit pas d'opposer écologie et écologie, il s'agit d'économie, il s'agit de dire on peut produire autrement, on peut diminuer considérablement l'empreinte écologique tout en rendant des services utiles à la population. Si j'ai encore une seconde pour donner un autre exemple dans un autre secteur qu'on évoque dans le livre, c'est le bâtiment et notamment tout ce qui est lié au ciment. Vous savez que pour produire du ciment, on va chercher du sable et il y a un géant mondial qui est français et qui travaillait dans les fleuves, dans les rivières, et qui maintenant essaye de trouver de nouveaux gisements de sable dans la mer.
Ami de Quiberon qui nous écoutait.
Voilà, autour de Lorient, l'île de Groix. Cette entreprise dit, mais si je ne peux pas aller chercher le sable pour faire du ciment, je ne peux plus construire les maisons. C'est un peu embêtant. Sauf qu'on a des entreprises qui construisent des maisons, mais qui utilisent les déchets des chantiers et qui recycle le, les produits qui recyclent pour faire du nouveau ciment.
Sachant qu'on ne peut pas tout recycler non plus.
Bien sûr, mais cette entreprise, elle crée des emplois, elle se développe et elle est pénalisée par des réglementations qui vont encourager à aller chercher des matières premières dans les fleuves, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de le faire parce qu'on a tellement saccagé, ça c'est des sujets que vous connaissez aussi bien que moi, on a tellement saccagé qu'on n'a plus le droit de le faire, donc du coup, on va dans la mer, c'est une sorte de fuite en avant, alors qu'on pourrait organiser un circuit économique et favoriser un circuit économique de recyclage. Encore une fois, aujourd'hui, la réglementation fait le contraire.
Alors, c'était notre grande série Rions un peu, donc avec vous, Pascal Canfin, mais heureusement que vous êtes là, parce que c'est vrai que vous vous présentez quand même la réalité des choses. Et puis, là, on se dit qu'il faut quand même travailler sur les mômes, puisque quand même, nos chers décideurs ont entre 55 et 75 ans. Heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même sensibilisés, mais quand même, on a une espèce de pensée un peu systématique que l'on connaît donc depuis longtemps, c'est-à-dire que nous avons ce dieu de consommation qui est là, et qui va encore donc continuer. Et donc, il faut penser aux mômes. Alors, c'est vrai, Frédéric Lizac, tenez, si, quand même, incidence qui n'est pas neutre, vous êtes une édition, vous êtes une entreprise qui s'appelle donc Plume de Carotte. Vous êtes passé, vous, ISO 14001. Alors, c'est pourquoi ? Parce que vous êtes la première maison édition, je crois, en plus.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce qu'on a fait là-dedans ?
Déjà, ISO 14001, peut-être pour expliquer, c'est une norme de qualité environnementale, en fait. Et oui, c'est très intéressant là ce que je viens d'entendre parce que à notre échelle, Plume de Carotte, une petite société de 6 personnes qui fait 10 livres par an à peu près, face aux 65 000 nouveautés chaque année, c'est quand même peu.
Oui, mais vous les vendez, vous les pilonnez pas, c'est pas mal. Hein,
donc, déjà, déjà, on fait ça. Non, mais on est quand même une entreprise, moi je le considère comme ça, avec une responsabilité environnementale. On produit, en l'occurrence pas de la dioxine, des livres, mais ça a quand même des incidences, la consommation de matière, en l'occurrence de la pâte à bois, des transports entre l'imprimeur et chez nous, vers les libraires, vers chez les gens. On est parti de l'idée qu'on avait, nous aussi, même à notre petite échelle, une responsabilité d'entreprise. Et donc, on a eu envie d'examiner un petit peu tous les curseurs sur lesquels on pouvait jouer pour diminuer le poids, notre poids environnemental. Alors donc, à ce moment-là, comme on est un éditeur, on a agi sur quoi ? On a agi sur les livres. Donc on est allé voir nos imprimeurs et on a examiné avec eux des solutions pour améliorer. Donc ça passe par des choix de papier. Il y a des papiers... alors soyons clairs, hein, le papier écologique, ça n'existe pas. Le livre écologique, ça n'existe pas, pas plus que la voiture écologique.
Non, la voiture propre,
contrairement
pas,
à ce qu'on peut entendre.
La moto verte non plus et l'agrocarburant propre non plus.
Par contre, effectivement, faire des choses et notamment faire des livres qui ont un poids moins lourd en environnement, c'est possible. On a fait des choix de papier, notamment des papiers qui ont des labels de forêts certifiées qui sont produites avec un certain nombre de normes de respect à la fois environnementales et sociales. On a fait le choix de quelque chose qui, oui, tiens, c'est vrai, au fait, pourquoi on n'y avait pas pensé avant, de faire tous nos livres avec des encres à base d'huile végétale, et non pas d'encre chimique et d'encre minérale, qui pose un fort problème, notamment lorsqu'on veut faire du papier recyclé, parce qu'à ce moment-là, le désancrage devient très lourd. Et puis, on a fait un autre choix aussi, dont on est assez fier, qui n'est pas très courant dans le monde de l'édition, malheureusement, c'est de dire, nous n'irons pas chez des fournisseurs, chez des imprimeurs, chez des relieurs, etc., à plus de 600 km de chez nous.
Ah, bien vu.
De chez nous ou de chez notre distributeur.
On raccourcit les circuits, logique. Quoi,
bien sûr. Oui. Donc, essayons de construire quelque chose qui tient la route, et en l'occurrence, c'est le cas, pour construire tout ça avec du local relatif. Pourquoi aller faire un livre en Chine, sincèrement, quand on peut le faire d'un point de vue économique, ça tienne la route, chez nous, enfin, mettons à 300, 400, 400.
Et donc, km. Celui-là s'appelle l'encyclo-amalis. Mais ça, on y reviendra. On se fait une petite pause avec Kerenan, et puis on repart avec nos invités, nos quatre invités, dans cette émission.
Ça, c'est mon cadeau.
Qu'est-ce que c'est ? C'est un chien en photo. Vous m'offrez un chien ?
C'est lui, là, sur la photo. Alors, je vous préviens tout de suite, il s'appelle Bignou, mais comme il est très jeune, vous pouvez changer de nom, si vous voulez, vous voyez.
Vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande expérience des chiens, j'ai toujours vécu avec des chiens. Vous voulez que je vous dise le fond de mon cœur ? Un chien ne vous décevra jamais.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
I might have lost you somewhere in the ride between the flatland and the Caspian Sea. So many days that I forget my Lord, trade the dark for the better side. I think I might have told you
this down has promised me. Lie down, forgive yourself and cross your heart. I'll tell you how my love, he soars at heights. He'll wave his wings onto me each and every hour. He'd lift me up when I come back from the fight. And God knows how much this down. God knows how much this down has promised me. This down, God knows how much this down, God knows how much this down has promised me.
Voilà, donc après Kerenan, donc victoire de la musique, les victoires de l'environnement avec nos quatre invités, ouais, en direct donc du Salon du Livre. Et je reviens vers vous, Pascal Canfin, là, parce que donc c'est pollué près de chez vous. Quand même un petit exemple, il y a des gros exemples comme les PCB dans le Rhône, qui ne sont pas d'ailleurs que dans le Rhône, hein, c'est ce qu'on a vu aux dernières nouvelles. Et je tiens à vous signaler qu'il y a un très bon article dans La Vie cette semaine qui donne la carte des sites pollués par les PCB. Donc vraiment, c'est le numéro de La Vie, ils font un très bon boulot avec Olivier Noyer. Toutes les semaines aussi sur l'environnement, donc les fleuves français empoisonnés. Là aussi, c'est un beau scandale, hein, qui a éclaté.
Oui, parce qu'on a le privilège en France d'avoir la concentration mondiale de PCB la plus élevée vers Rouen et Le Havre. Donc c'est encore un honneur dont on peut être fier.
Bon, d'accord. Et donc effectivement, ces fameux sédiments, mais ils restent scotchés, on va dire, au fond de la rivière. Tenez, pour montrer un petit peu les bonnes volontés, les envies, parce que Dieu sait s'il y en a en France et Dieu sait si ça commence à bien bouger. Ce qui se passe en Auvergne, ça c'est tout à fait intéressant. Si on clique sur la région Auvergne, qu'est-ce qu'il y a d'un point de vue agricole ?
Il y a les paradoxes d'une politique locale agricole qui à la fois essaye d'encourager le bio, notamment via les achats publics, via des aides aux producteurs, et puis qui en même temps a sur son territoire une des plus grandes coopératives qui encourage de son côté les OGM. Et donc on est face à la capacité, mais aussi à la limite des marges de manœuvre du politique local. Et ça, je pense que c'est important, parce qu'on retrouve la même chose en Aquitaine, où on a des lobbies important en faveur des OGM, et on a en même temps un conseil régional qui a signé la charte comme quoi il va être un territoire sans OGM. Et donc les collectivités locales font des choses, parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens. On cite des exemples aussi à Grenoble par exemple, ou à Marseille. Mais ce qui est important aussi, c'est de remonter la capacité des pouvoirs publics à changer les règles au niveau national, mais aussi au niveau européen. Et là, en matière agricole, on rentre dans une période qui est extrêmement importante, puisque la politique agricole commune qui gère l'ensemble des fonds qui sont dédiés aux agriculteurs, eh bien, va être renégociée à partir de le courant 2008 sous la présidence française de l'Union européenne. Et donc, on va voir, après les effets d'annonce du Grenelle, dont certains sont un peu suivis d'effets et d'autres sont assez contradictoirement suivis d'effets, Bien, on va voir sur cet enjeu clé où la France a toujours été du côté de l'agriculture la plus polluante et la plus productiviste, s'il y a un véritable changement de culture ou si bah, finalement les mauvaises habitudes perdurent.
Et alors là, le président de la LPO, hein, donc, Alain Maugrin-Dubourg, est tout à fait conscient de cela parce que vous travaillez vous aussi avec les agriculteurs. Mais derrière tout ça, on sait qu'on a donc ce productivisme. Une fois de plus, on ne va pas charger la barque des agriculteurs. C'est pas ça le. Alors,
je crois qu'on est condamné à revisiter nos mauvaises habitudes. Mais par exemple, cette année, en 2008, on a gelé les jachères. J'en ai parlé à Michel Barnier qui me dit « Mais oui, mais de toute façon, les grosses machines ne peuvent pas aller partout, donc il restera toujours un peu de jachère. » Eh bien, j'en ai parlé également au président de la FNSEA, au président des chasseurs, et tout le monde est unanime à considérer qu'on doit envisager une agriculture autre pour demain. Et notamment
mais l'envisager, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord.
Oui, mais là, ça bouge. Ça bouge mais non, mais ça bouge, mais j'ai très peur qu'on n'atteigne pas les objectifs. Et vous avez en plus, sur le plan européen, on va dire des directives contradictoires. On prend l'agriculture. D'un côté, il faut répondre à la demande alimentaire du monde.
Bien sûr.
Hein, et c'est pour ça que déjà, actuellement, ça explose. Hein. Non, mais il y a un marché aujourd'hui qui est nouveau. Et donc, ça explose. Il faut se rappeler que les jachères ont été créées pour limiter, ou bien alors les quotas de beurre ou de lait et tout, pour limiter la production. Aujourd'hui, on veut au contraire développer. Il faut donc des territoires. Alors, vous avez d'un côté la manière surréaliste dont on gratte les espaces naturels, pas seulement avec l'agriculture, mais aussi avec le béton et le bitume. Il faut quand même me rappeler que ça représente l'équivalent d'un département français tous les 10 ans, hein, qui est pris sur la surface agricole ou naturelle. Donc vous avez ça d'un côté, et puis vous avez de l'autre des directives tout à fait heureuses où on s'engage à stopper la perte de la biodiversité d'ici 2010. Eh bien, ça n'est pas vrai. On ne peut pas conjuguer ces deux objectifs sauf à faire des grands sacrifices, et je ne crois pas qu'on soit dans cet état d'esprit actuellement.
Alors Jean-Christophe, vous en parlez vous aussi dans le jour où l'abeille disparaîtra. Ça, on est au cœur aussi de ces problèmes.
Oui, je crois qu'il va falloir. Il y a plusieurs aspects. Juste d'abord pour commencer, pour revenir à la politique agricole commune, par exemple, c'est toujours la difficulté pour les gens qui se préoccupent de la conservation de la nature, c'est toujours d'apporter la preuve qu'une décision, qu'une politique va nuire à l'environnement. C'est jamais le contraire. Et ça, c'est quelque chose. Et apporter ces preuves-là, recenser toutes ces espèces vivantes et quantifier, c'est un travail colossal pour lequel on n'a souvent pas l'information. Alors, ça commence, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ONG qui travaillent. Et pour la politique agricole commune, par exemple, on a clairement montré, avec des indicateurs sur certaines espèces d'oiseaux, que dès que ces nouveaux pays, à suite à l'explosion du bloc soviétique, ont rejoint l'Europe et notamment commencé à appliquer la politique agricole commune, vous voyez un déclin des espèces d'oiseaux. C'est net, les dates coïncident. Donc, une politique agricole commune entraîne automatiquement le déclin de la biodiversité. Donc, effectivement, il y a du travail à faire dans ce sens-là. Donc,
c'est intéressant d'avoir, parce que vous dites, votre travail, c'est donc aussi de faire du recensement, donc de pointer ce qui existe. Comment on fait alors sur le terrain là-dessus?
On s'applique sur le travail formidable de dizaines de milliers de personnes qui travaillent, comme je le disais tout à l'heure, avec trois fois rien sur le terrain et qui font remonter de l'information. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que même le concept du développement durable est complètement galvaudé. C'est-à-dire que on met là-dessus absolument n'importe quoi. Vous voyez dans les publicités, même les constructeurs automobiles, vous voyez même plus de voitures, les compagnies aériennes, vous voyez plus d'avions, vous êtes dans un paysage paradisiaque. Donc il y a un truc très pervers qui se passe, une manipulation de ce concept de développement durable qui fait que derrière, on met absolument n'importe quoi. Le développement durable, c'est pas nouveau. Ça a été inventé, le terme, dans la fin des années 70 par les grandes ONG, WWF, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc c'est pas nouveau, mais maintenant c'est utilisé d'une façon parce que les gens se rendent compte qu'effectivement, en fait, certaines personnes ont été des visionnaires et en fait ils avaient raison, il fallait se préoccuper d'un problème.
C'est-à-dire qu'effectivement, même déjà des gens de l'époque du Club de Rome dans les années 70 étaient donc assez visionnaires, même s'ils n'avaient pas tous les bons résultats, mais peu importe. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un étau qui se resserre entre la démographie, entre les besoins des pays en développement, entre les désirs, les plaisirs du monde occidental et la réalité physique du monde. Et c'est ça. Et on voudrait y arriver sans vraiment changer nos modèles dominants aujourd'hui.
Voilà. Je crois que c'est le problème, c'est qu'on ne veut pas remettre en cause nos modes de consommation. C'est la clé. On ne va pas pouvoir continuer à gaspiller autant qu'on gaspille aujourd'hui avec des milliards. Et je crois que ce qui l'illustre très bien, c'est les biocarburants. Les biocarburants, c'est-à-dire qu'au lieu...
Agrocarburants, vous avez dit.
Oui, exactement. Agrocarburants.
C'est une hérésie dans la plupart des cas.
Au lieu de réduire, parce qu'on a des objectifs de 10% de biocarburants par rapport à la consommation énergétique, au lieu de réduire de 10% la consommation actuelle, ce qui serait très possible, on est prêt à bousiller la planète, à affamer les gens aux quatre coins du monde pour un bénéfice qui, juste pour ne pas changer nos pratiques actuelles.
On va rappeler qu'aujourd'hui, et là ça devient dément, que l'huile de palme est complètement indexée sur le cours du pétrole, que le cours du maïs monte aussi en fonction du cours du pétrole, et que derrière tout ça, dans notre grande série, il va falloir manger effectivement ou bien conduire, il va falloir choisir. Article dans Le Monde aussi qui est bien sorti là il y a deux jours sur le sujet. Ça fait partie donc des fausses bonnes idées a priori. Je ne parle pas des circuits courts comme l'huile végétale brute, où là c'est autre chose. On prend de l'huile de tournesol et puis on va le mettre directement dans le réservoir du tracteur. Ça, a priori, ça ne devrait pas poser de problème.
Non, mais nous, on documente, par exemple, l'effet de l'huile de palme. Maintenant, on l'a vu sur les oiseaux en Asie du Sud-Est. Maintenant, on le voit sur les mammifères. C'est notre travail de documenter ce qui se passe au niveau des espèces vivantes. On a un déclin absolument faramineux.
Alors, Pascal Canfin.
Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Alain Bougrain-Dubourg tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'opposer une agriculture de qualité à une agriculture qui nourrirait le monde, puisque le vrai enjeu en termes d'augmentation de la productivité agricole, qui est un véritable enjeu pour nourrir les 9 milliards de personnes qu'on sera dans quelques décennies, ce n'est pas de faire encore plus de productivité au nord pour exporter de la production vers les pays du sud, c'est de faire ces gains de productivité de manière écologique au sud. Et les études montrent que le passage de la situation actuelle en Inde, en Chine, en Afrique, à une agriculture bio qui respecterait le cahier des charges bio, mais qui serait plus modernisatrice par rapport à l'état existant, et bien serait suffisante pour nourrir les 9 milliards et demi de personnes. C'est-à-dire que la révolution doublement verte, la nouvelle révolution agricole, elle est au sud et elle est biologique. Donc c'est tout à fait complémentaire et pas contradictoire avec la politique qu'on veut mener en Europe.
Il y a une chose passionnante qui éclaire tout le débat en ce début du 21e siècle. C'est qu'en 1900, chaque habitant de la planète avait à sa disposition, entre guillemets, 8 hectares. Aujourd'hui, on en est à 2 hectares. La planète est devenue trop petite. Si on continue de cette manière, il faut donc intelligemment gérer les ressources, et ça va dans le sens d'une révision totale, en tout cas pour les pays productivistes et agricoles.
Et puis il y a des personnes vraiment sur qui on peut compter, ce sont les femmes. Parce que là, on se rend compte dans votre livre, femmes. Alain, on va aussi voir ça avec Jacques Lessovier, au-delà de cet amour complètement immodéré et formidable que nous avons pour vous, mesdames. Mais non, mais c'est vrai qu'en matière environnementale, quand même quelques grandes figures qui sont plus qu'emblématiques.
Oui, moi j'ai eu le bonheur de parcourir la planète de l'Antarctique au désert d'Arabie en passant par l'Amérique du Sud et tout, et partout où on vivait une situation d'extrême, c'est-à-dire on vit dans des conditions extrêmement inconfortables, j'ai trouvé des femmes qui étaient là aux commandes pour sauver une espèce. Alors c'est aussi bien Leslie Melville qui a sauvé les girafes de Rothschild au Kenya, mais une femme emblématique, Diane Fossé. Quand j'allais chez elle là-haut, c'est 3000 mètres d'altitude, ce film, Gorille dans la brume. Oui, il y a de la brume, oui, il fait froid, et oui, elle était là, chevillée à cette terre qu'elle aimait, à ces gorilles qu'elle aimait. Alors, à toutes, j'ai demandé, mais pourquoi vous, les femmes, et pas les hommes ? Et je dois dire qu'elles m'ont toutes répondu avec une grande humilité, mais c'est le hasard de la vie. Alors je l'ai titillé un peu plus, et finalement je crois qu'elles avouaient, ou elles convenaient en tout cas, que c'est peut-être tout simplement parce qu'elles donnent la vie. Et elles ont donc une détermination supérieure à celle de l'homme à préserver ce vivant. Voilà ce que j'ai retenu des femmes. Mais c'est vrai qu'elles sont là, en avant-garde, et que... Seul compte pour elle le message, l'engagement, et elle se tamponne des notions politiques ou autres, elles sont assez exemplaires.
Oui,
voilà. Et Cousteau disait à juste titre que si on veut sauver l'environnement, sauver l'humanité, il faut commencer par donner les moyens d'éduquer les femmes. Les femmes, c'est l'avenir de l'homme. C'est
non, pas mais, non, mais vous rejoignez aussi Wangari Maathai, ouais, hein, donc, qui a sûr. Aussi été prix Nobel, et avec cette fameuse ceinture verte, et qui le dit elle-même. Alors, il y a les femmes, et puis il y a aussi les enfants. Frédéric Isaac, là, c'est aussi votre boulot, parce que vous êtes engagé depuis longtemps, vous, avec les éditions Plume de Carotte. Quelles sont, enfin, d'après vous, je dirais, dans notre monde occidental, les limites de la sensibilisation auprès des enfants sur ces domaines environnementaux et naturalistes ?
Tout simplement, je crois, en écoutant ce qui se dit autour de la table là, depuis tout à l'heure, c'est quand même assez effrayant. Et je crois que c'est effrayant, la frayeur pour mobiliser quand on est adulte et quand on est un décideur. Je pense qu'il y en a besoin d'avoir des curseurs comme ça, même si ils sont plutôt catastrophistes, face à des enfants, et face peut-être au grand public même en général, je pense que ça génère plus peut-être de l'angoisse et donc de la paralysie.
Oui.
Et c'est aussi, ça rejoint des
Oui, parce
des,
que être informé, limites. Même surinformé, on s'en est rendu compte, d'un point de vue psychologique, parce qu'il faut beaucoup de psychologie, et je crois même carrément de psychanalyse dans ces histoires-là aussi, d'environnementale, ça bloque les gens.
Ça ne mène pas forcément à l'action. C'est vrai qu'il y a des sociologues qui ont travaillé là-dessus, effectivement, de manière générale. Et à partir de ce moment-là, c'est la question importante est effectivement comment va-t-on réagir dans l'immédiat avec des gouvernements, avec effectivement des révisions de la PAC, des choses comme ça, mais aussi dans l'avenir, qu'est-ce qui fera qu'on ne consommera pas de la même façon, qu'on sera acteur peut-être de notre environnement. Et donc là, on parle vraiment de la question de l'éducation à l'environnement. Je crois que ça passe effectivement par une sensibilisation particulière qui est, moi c'est ma conviction, qui est plus la sensibilisation du plaisir, de la curiosité, oui. De l'éveil du regard. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire dans cet encyclo-Amalie.
Ah, dans l'encyclo, c'est exactement ça. Parce que c'est plein
vraiment
de...
pour l'anecdote, c'est vrai, vous allez voir. Face aux grandes questions dont on vient de discuter, ça va paraître très anecdotique, mais pourtant, une petite phrase que j'aime beaucoup. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Cette petite phrase, c'est tout simplement pour apprendre, pour se rappeler que les feuilles de charme ont des dents et pas de poils, et les feuilles de hêtre ont des poils et pas de dents.
Et donc,
avec une petite phrase comme ça, on peut reconnaître le charme du être.
Mais ce sera la phrase clé de l'émission, ça. Sinon, on ne retiendra que ça aujourd'hui.
Alors, non, certainement pas. J'espère certainement pas. Quel est le lien avec tous ces grands sujets qu'on vient d'évoquer ? C'est que je crois que c'est d'abord en riant, en s'amusant, en trouvant notre environnement riche qu'il peut nous apporter des choses, qu'on va le prendre en compte, qu'on va se l'approprier et que là, on va en devenir acteur. Moi, j'avoue que, encore une fois, ce n'est pas du tout une remise en question du travail des uns et des autres. C'est une nécessité, mais pour des rouages politiques, pour des rouages de collectivité, pour des rouages économiques, pour des rouages de grand public et notamment d'enfants.
Être capable de donner envie.
Voilà, exactement.
Et aussi, et ça, les décideurs ne savent pas le faire, aussi de se projeter avec un calendrier quand même dans l'avenir, de voir que c'est possible aussi d'évoluer dans ce 21e siècle. Alors peut-être un mot, effectivement, Alain, puis après Pascal.
Non, puisqu'on en est aux petites phrases, je vais en prononcer une qui n'est pas de moi, qui est de Saint-Bernard et qui disait « On apprend davantage dans un bois que dans un livre ». Alors je suis absolument désolé de le dire dans cette enceinte, mais c'est vrai que la nature est là qui t'invite et qui t'aime, comme disait Rousseau. Alors non, on parle des ONG. C'est un constat d'échec, très honnêtement, par rapport à la culture anglo-saxonne où on est fier d'afficher son appartenance à une association de protection de la nature. Ici, en France, on a le sentiment d'être encarté. Et moi qui préside l'une des premières associations environnementales
plus
de France,
40 000 personnes,
43 000, 120 salariés, etc., mes homologues britanniques, les RSPB, c'est plus d'un million d'adhérents. Alors, par bonheur, parce qu'il faut tenter d'être positif, on voit que dans des affaires comme l'Erika, il y a une potentialité de solidarité exceptionnelle. Par exemple, pour soigner les oiseaux, en 99, 8000 bénévoles sont venus nous rejoindre sur les plages. On leur demandait de rester au moins une semaine à nos côtés parce qu'il fallait les former, etc. Eh bien, ces gens-là, j'ai fait une enquête et j'ai pu constater que 20% seulement d'entre eux adhéraient à une association de protection de la nature. En résumé, quand on est en situation de crise, la France s'engage. Pour le quotidien, on n'y va pas.
Oui,
et ça, c'est très dommage. Et il y a une lourde responsabilité des politiques qui nous ont toujours considérés comme du poil à gratter, soit la gauche comme la droite, et qui n'ont pas reconnu le travail remarquable que nous faisons. On parlait tout à l'heure de la recherche scientifique. Elle n'existerait pas sans les bénévoles des ONG à bien des égards. Et ça vient d'être enfin reconnu, notamment avec la Fondation pour la recherche sur la biodiversité.
Aux ONG et aussi, si vous avez des associations locales, un petit mot rapidement, Jean-Christophe Vier, s'il vous plaît.
Oui, moi, j'abonde tout à fait dans ce sens. Je n'ai pas toujours travaillé pour une grande organisation internationale. J'en ai créé une petite en Guyane française où j'ai travaillé avec des enfants. Je peux dire que c'est un bonheur quand vous amenez les gamins, vous montez des plans d'action éducatifs, vous les amenez dans la forêt. Je pense qu'il ne faut plus oublier qu'aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité vit en ville. Donc, ils ont perdu ce lien avec la nature. Il faut les ramener, il faut leur faire découvrir, éveiller leur curiosité. Et puis, dans ces temps où on parle beaucoup du pouvoir d'achat, il ne faut pas oublier que c'est gratuit, la nature. C'est gratuit, et ça, c'est quand même pareil.
La nature n'a rien compris au libéralisme. Pascal Canfin.
Je pense qu'il ne faut surtout pas opposer ceux qui bougent parce qu'ils ont les valeurs qui les font bouger, ceux qui bougent parce que c'est leur intérêt de bouger, ceux qui bougent parce qu'ils ont l'obligation de bouger et ceux qui bougent parce que ça leur fait plaisir de bouger. Je pense qu'il faut jouer sur l'ensemble de ces leviers. Il faut jouer sur l'offre économique, il faut jouer sur le comportement individuel, il faut jouer sur les politiques publiques. Et c'est on est face à des enjeux qui sont historiques. Il faut jouer sur l'ensemble des leviers, tirer tout le monde. Et je pense qu'il ne faut surtout pas être catastrophiste. Nous, dans le livre, on a montré que c'était possible de faire autrement. Il y a des politiques publiques alternatives, il y a des entreprises qui produisent mieux que d'autres. Donnons-leur la chance. Gageons que c'est elle l'avenir et c'est pas les comportements du passé qu'on va continuer à tirer comme ça.
Alors là, on est bien d'accord, c'est que de toute façon, nous entrons dans une société de sobriété qui ne sera absolument pas triste. Simplement, société du gâchis, c'est terminé. En tout cas, ça va durer encore un certain temps et puis ça va bouger. Voilà. L'accablement d'un côté, peut-être, mais surtout l'espoir d'un monde, on va pas dire meilleur, mais un monde qui va être différent. Et puis derrière tout ça, on le sait les uns les autres, c'est aussi la paix dans le monde qui est quand même là, parce qu'il y a quand même des tensions fortes, pas que sur les énergies, sur l'eau, et donc cette fameuse vie qu'on appelle la biodiversité.
Et qui vont augmenter. Le problème de la biodiversité, c'est que à terme, aujourd'hui, des millions de gens en dépendent pour leur survie quotidienne. Donc les priver de cette ressource, c'est quelque part les condamner à la famine, les condamner à... pas d'habitation, détruire leur habitat. Donc ils ont besoin de ça au quotidien. Et ça, dans nos sociétés modernes, on a un petit peu perdu cette vision-là.
Alors Jean-Christophe Vier, le jour où l'abeille disparaîtra, c'est chez Artaud. Alain Bougrain-Dubourg, curieux de nature, 30 ans de passion avec les photos. Hein, c'est vraiment aussi un livre de photos, les photos d'Alain chez Flammarion. L'encyclo Amalie, c'est aux éditions Plume de Carotte. Et puis C'est pollué près de chez vous, c'est de Pascal Canfin. Bien sûr, le public ici, donc au Salon du Livre. Merci à Jean-Christophe Pinaza, Jean-Baptiste Audibert, Xavier Pestugia qui donc réalisait cette émission. Denis Chessou, on se retrouve la semaine prochaine. On va fêter le printemps dans les jardins et aussi le réchauffement climatique avec les quatre saisons du jardinage bio. On aura nos correspondants nature. Et dans quelques instants, ce sera le Zapping de France Inter avec Mathias Degel. Il est 15h, Julie Gacon, c'est à vous pour les infos.